Philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 17 octobre 1990.
Il y a une petite question. En citant la distinction d'Aristote sur l'ordre génétique et l'ordre de perfection, vous dites que l'un n'est pas ultime, car il y a deux points de départ. Bon, je reprends un instant cette distinction. Comprenez bien que cette distinction, forcément, elle se fait dans une attitude réflexive, donc critique. C'est un a priori. Je découvre en pensant, en réalisant une recherche philosophique, puisque c'est à l'intérieur de la recherche philosophique qu'on découvre cela. Donc, c'est la distinction fondamentale entre le visible et l'invisible. Vous comprenez bien que dès je commence par la connaître, par mon expérience. Puis, mon expérience éveille en moi l'interrogation. C'est à partir de l'expérience que l'interrogation s'éveille grâce à l'admiration. Tout de suite, le point de vue affectif de l'admiration suscite en moi un désir d'aller plus loin. Et l'interrogation veut pénétrer plus avant dans l'intelligence. Je dirais que dès que vous avez expérience et interrogation, vous avez tout de suite deux aspects. L'éveil de l'intelligence à partir d'admiration, à partir d'amour. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je vois quelque chose et quelque chose que j'ignore. Mais la réalité m'interpelle toujours, comme on dit aujourd'hui. Elle m'interpelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réalité elle-même exige d'aller plus loin que ce que je constate immédiatement. Qu'est-ce? Et à partir de là, il y aura la recherche inductive que nous verrons progressivement, où l'intelligence découvre un premier, un principe. La découverte du principe, c'est la découverte du premier. Donc, un ordre qui n'est pas directement ce que j'ai saisi, mais qui est plus loin. Vous voyez, alors ça relève du fait, si je réfléchis au point de vue critique, que la connaissance intellectuelle est dépendante de mes sens dans l'ordre de la recherche. J'ai un corps. Mais que mon intelligence, si elle est dépendante de mes sens dans l'ordre de l'exercice, à quelque chose que les sens ne saisissent pas, qui est au-delà des sens, qui nécessite un principe, un premier. Le premier étant au-delà de ce qui m'est donné immédiatement. Donc je saisis tout de suite qu'il y a ces deux aspects de l'intelligence, connaissance sensible, connaissance intellectuelle. Et au plan critique, je dirais la signification profonde qui va tout de suite apparaître comme ayant quelque chose d'universel et ce qui est donné immédiatement. Donc je peux fonder la distinction d'un ordre génétique dans l'ordre de l'exercice. Et un ordre plus profond de signification qui sera l'ordre de perfection, qui m'est donné immédiatement dès que je constate qu'il y a en moi deux sources de connaissances. Les sensations, les expériences et l'intelligence. Je crois que ça, on peut tous le constater dès qu'on réfléchit un peu sur notre vie intellectuel. Réfléchissez sur la moindre découverte que vous faites. On est tous actuellement à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la métaphysique. Donc on est en état d'éveil, de recherche, j'espère. On se réveille pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la métaphysique. Quel est cet animal particulier que je dois essayer de comprendre. J'ai des connaissances, presque tous, nous avons des connaissances artistiques, affectives. On a tous aimé un peu dans notre vie quand même. On a tous un sens artistique, la beauté du matin, n'est-ce pas ? Avec le brouillard, c'est bien sa beauté particulière. Pour la Hollande, n'est-ce pas ? C'est une beauté spéciale, le brouillard qui s'élève, qui maintient le mystère. Et puis il y aura tout d'un coup quelque chose qui va apparaître. Bon, c'est comme ça qu'on cherche un type de connaissance qui n'est pas donné immédiatement. Ça mettra du temps. Parce que le brouillard peut s'élever, peut se lever à 9h du matin, à midi, ou pas du tout. Pour certains, la métaphysique, ça mettra très très longtemps à s'éveiller. Dit ça, je le crois, mais je vois pas du tout. Je reste dans le brouillard. Et c'est vrai qu'il y a toute une métaphysique, on reste dans le brouillard. Pourquoi la métaphysique a été si peu découverte? C'est à cause du brouillard. C'est à cause de la puissance de nos sens et de ce qui est donné immédiatement. Qu'on a de la peine à s'élever vers quelque chose de plus profond, à pénétrer plus avant dans la réalité. Oui, donc on voit bien et on constate vite qu'il y a deux ordres de connaissance. Un qui suit l'aspect génétique que tout le monde peut atteindre. J'ai été un enfant. Ma mère me le rappelle. C'est vrai, parce que nous, on a perdu un peu cette connaissance du berceau. On nous l'a montré. Tu vois, tu étais là-dedans. Et tu étais si gentil, là. Alors qu'il y a tout cet aspect génétique que nous vivons, quoi. Nous vivons cet aspect génétique. Et nous le portons en nous. Et puis on dépasse cet aspect génétique. Puisqu'on a des connaissances nouvelles, mais dans tous les ordres. Dans l'ordre artistique, dans l'ordre affectif, dans l'ordre intellectuel. Il y a un moment où il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Évidemment, vous pourriez dire le devenir, c'est le multiple. Et l'être, c'est l'un. C'est sûr. Mais alors, on reviendra plus tard. Parce que d'une certaine manière, on retrouve ça même au niveau de l'être, au niveau de l'être, de l'un et du multiple. L'ordre génétique est toujours multiple. Toujours. Tandis que l'ordre de perfection, il est un. Puisqu'on atteint un premier. Donc il y a quelque chose d'indivisible dans le premier. Si l'un, c'est l'indivisible. Tandis que le multiple. Mais voyez comment l'un ne peut pas être premier. Alors ça, c'est une question métaphysique qu'on va creuser progressivement. Parce que je ne peux pas le dire tout de suite a priori. Je peux dire, dans l'ordre génétique, que je peux faire la connaissance des différentes philosophies. Il y a eu un Platon qui a dit que l'un était au-delà de l'être. Il y a un Aristote qui a dit que l'être était au-delà de l'un. Ça, c'est une donnée. Ça existe. Donc, je ne suis pas obligé de le résoudre tout de suite. N'est-ce pas ? On verra progressivement. Évidemment, il y a un petit choix qui va se faire. Ce choix, je l'ai fait pour vous. C'est sûr. Puisque je vous enseigne. Donc j'ai fait ce choix pour vous. Mais j'explicite progressivement le pourquoi de mon choix. Et c'est le propre de l'enseignement. L'enseignement manifeste qu'il y a au-delà de l'ordre génétique un ordre de nature, un ordre de perfection. S'il n'y avait pas d'ordre de perfection, il n'y aurait pas d'enseignement. Je pourrais simplement dire, je suis plus âgé que vous. Donc, j'ai quand même, normalement, si j'ai progressé, vous pourriez dire, mais à un moment donné, vous vous êtes arrêté. Vous êtes ankylosé. Parce que ben, la vie, c'est sans ankylose. Je n'ai plus la souplesse de l'enfant qui fait des pieds de nez. Vous savez, magnifique. Tandis qu'arrivé à un certain âge, c'est plus difficile de faire un pied de nez. C'est-à-dire... Donc on voit très bien ce que ça représente, la souplesse de la vie végétative. On s'ankylose. Si on s'ankylose, celui qui est après peut le rattraper. Jean court plus vite que Pierre au cimetière, parce qu'il est plus jeune et qu'il a le cœur plus léger. Alors on peut très bien rattraper et passer devant, tout en ayant commencé après. Jean et Pierre ont commencé en même temps, mais pour nous, on commence après. On peut très bien rattraper. Il peut y avoir parmi vous quelqu'un qui intellectuellement non seulement me rattrapera, mais me dépassera. J'en serai très heureux. Mais il faudra me l'expliquer. Il faudra me dire comment. Mais vous avez dit ça, c'est pas juste. Je vous affirme, vous êtes resté ankylosé à tel endroit. Vous avez fait telle confusion. Ankylosé, c'est la confusion. On n'a pas su distinguer. On est resté devant quelque chose de massif. En enseignant, je dis, on prend Aristote. Pourquoi ? On vous donnera les raisons. Oui. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre dans notre vie. Oui, ce que je dis comme ça, il faut le retrouver dans votre expérience. Et dans votre propre expérience, tant que vous ne l'avez pas découvert à partir de votre expérience, vous l'acceptez fidèlement, avec confiance dans le maître, mais pas plus. Intellectuellement, c'est pauvre. C'est pauvre de rester tout le temps disciple. C'est pour ça qu'arrivé à un certain âge, c'est difficile d'être disciple. Quoique, il y a la sagesse aussi, la vieillesse, qu'on se dit après tout. Ce domaine-là, je ne le connais pas. Dans un autre domaine, j'ai des compétences, c'est suffisant. C'est très curieux que quand on a des compétences dans un domaine, on est beaucoup plus souple pour devenir disciple dans un autre domaine. Ordinairement, celui qui n'est pas du tout disciple, c'est celui qui n'a aucune compétence. Je dis ça pour que vous soyez tous disciples. Parce que quand on a des compétences dans un domaine, on sait qu'on est devenu progressivement compétent. Alors on accepte de changer de vitesse. Hein, on va maintenant faire des films. convient très bien, dans la mesure où on découvre certaines choses. On voit au bout d'un certain temps qu'on ne peut plus demander la lumière à tel ou tel. On les a dépassés. Intellectuellement, on est conscient, tu vois. On ne doit pas tomber dans l'orgueil. Parce que l'orgueil est toujours là. Mais on sait ça. Alors on est heureux subitement de rencontrer quelqu'un. Ah oui. Quand je suis arrivé à Fribourg, j'étais heureux de rencontrer un Dominicain qui me faisait penser au grand Dominicain. C'était le père Ramirez, un Espagnol de grande race. Et je lui ai posé tout de suite toutes les questions que j'avais posées à d'autres et personne ne m'avait répondu. Je lui ai posé les questions en disant, est-ce que c'est juste de dire ceci ? On a toujours besoin, vous voyez, d'une confrontation. Parce que c'est comme ça qu'on reste dans l'objectivité. La confrontation est toujours nécessaire. Autrement, on risque de tomber un tout petit peu dans l'imaginaire. Et on fausse la distinction de l'ordre génétique et de l'ordre de perfection. Qu'on fait tout le temps dans notre vie. Alors, subitement, on la met en pleine lumière. Et c'est très important. Oui. Si on distinguait bien l'ordre génétique de l'ordre de perfection, on comprendrait beaucoup mieux ce que la psychologie peut apporter et ce que la philosophie apporte à la psychologie. L'erreur de la psychologie, c'est qu'elle veut, quand elle prend une méthode génétique, c'est qu'elle veut tout dire. L'ordre génétique ne dit pas tout. Comme l'ordre de perfection ne dit pas tout. Un nous dit le comment et l'autre nous dit le pourquoi. Vous savez bien ce que Auguste Comte dit avec force. Les pourquoi, c'est les enfants. Et le comment, c'est l'âge positif. C'est juste l'inverse. C'est très curieux. Il se met le doigt dans l'œil. Pauvre Auguste Comte. Et c'est pour ça qu'il est resté. Il n'a pas avancé. Ça fait très vieillot, Auguste Comte. Quand de temps en temps à Paris, quand vous passez, je ne sais plus l'adresse, mais cette petite église d'Auguste Comte. Parce qu'Auguste Comte a fondé une religion. Elle est mort-née. Forcément. La religion du comment. C'est curieux. C'est intéressant de voir ces choses-là. Ça fait partie du point de vue historique. Parce qu'il y a un ordre génétique, un ordre de perfection. Il y aura tout le temps une topic historique. Et puis, ma propre expérience. Il y aura toujours les deux. Parce qu'il y a des philosophes qui ont vécu avant moi. Et je dois m'intéresser à eux. Alors, je continue si vous voulez. J'avais essayé de montrer très rapidement comment historiquement, topic historique de la philosophie première, il faut toujours avoir un peu ça devant les yeux. Premier moment, le logos grec qui prend naissance face au moutos, tradition religieuse. Cet éveil merveilleux d'un Socrate, Platon, Aristote, Plotin. Il y a toujours vraiment un grand coup de chapeau en face de Socrate, en face de Platon, en face d'Aristote. Et puis Plotin. Alors dites-vous bien que ces quatre, ces trois en réalité, il faudra les regarder très à fond. Parce que ça, c'est grand. On ne perd pas son temps à lire du Platon, on ne perd pas son temps à étudier Aristote. Oui, je dis bien lire Platon, étudier Aristote. Et se reposer dans Platon. C'est un repos, Platon. C'est l'aspect mystique, philosophique. Mais c'est très important d'avoir ce jeu tout de suite devant soi. Après, on entre dans quelque chose de tout à fait différent. La philosophie face à la foi chrétienne. Alors la grande période des théologiens. Puis, et la montée, je crois, personnellement, je dis ça, évidemment, en disant ça, j'ai mon ordre de perfection. Parce que je pense
pas, je ferai comme un pur historien, voilà ce que je vous donne. Bon, prenez l'ordre que vous voulez. Là, je ponctue, c'est ça que j'appelle topic historique. C'est que j'ai ponctué ça grâce à l'ordre de perfection. Une grande montée jusqu'à Saint-Thomas. Une grande montée au plan théologique. Et cette montée se termine par la découverte d'une théologie scientifique. D'une science subalternée. Et je dis bien une grande montée. Pour certains, cette grande montée est fausse. Et Saint-Thomas introduit le rationalisme dans la foi. C'est un rationaliste. Saint-Thomas n'est pas un rationaliste. Ce qui découle la différence entre intelligence et raison. Dès qu'on découle la différence entre intelligence et raison, on ne peut plus être un rationaliste. Or, c'est la grande distinction que Saint-Thomas fait à la suite d'Aristote. Cette distinction-là existe dans Aristote. Le logismos et le nous. Le nous, c'est l'intelligence. Le logismos, c'est la raison. C'est pas mal comme distinction, vous voyez. C'est une distinction analogue à l'ordre génétique et à l'ordre de perfection. C'est appliqué à la vie intellectuelle. Après saint Thomas, la déségrégation, le 14e siècle, c'est quelque chose d'extraordinaire comme recherche, mais aussi une dispersion, 14e, 15e. Puis vous avez ensuite, alors, au plan philosophique, c'est une topic historique, philosophique que je vous donne, la libération de l'entendement par rapport à la foi chez Descartes. C'est ce que Descartes veut faire, hein. Pour lui, c'est une libération. D'où ce point de départ de la philosophie de la liberté. Le premier moment de la philosophie de la liberté, c'est Descartes. On ne recherche plus la vérité, on recherche la certitude. Alors, vous voyez, dès qu'on recherche la certitude et qu'on ne recherche plus la vérité, c'est fini des audaces. On s'assied. On est très en sécurité quand on est assis. On peut laisser passer tous les trains. On est assis. Je crois qu'on peut dire qu'avec Descartes, la philosophie s'assied dans l'idée. Certitude. Et de la vérité aussi, mais de la certitude. plus grande des certitudes, la foi. Plus grande que les certitudes mathématiques. Dans les connaissances humaines, c'est les mathématiques qui dominent tout. Pas toute la certitude. Mais la foi dépasse. Alors on va y avoir, vous voyez, cette espèce de rivalité entre la foi et les mathématiques. Et ça explique pourquoi le modo geometrico, le mode geométrique, donc la connaissance mathématique, dans ce cas-là d'élémentaire, va jouer un rôle si important chez Descartes. Parce que ce sera qui va lui donner une force d'appui. La foi étant écartée, étant mise à l'air. À partir de Hegel, étant donné que tout est tellement bien noué dans la dialectique, il va y avoir la dispersion. Et cette dispersion fait que, de fait, on ne sait plus quel chemin prendre. Et c'est vrai que c'est très très difficile à partir de Hegel de voir. On a l'impression que on va tout reprendre dans des systèmes multiples. Mais l'analogue au 14e et 15e siècle en théologie fait qu'au plan philosophique. Ça va dans tous les sens. D'où naissent toutes ces idéologies athées. Et toutes ces idéologies athées, c'est la recherche de l'absolu dans l'homme. C'est l'homme qui est le garant de la certitude et de la vérité. C'est l'homme qu'on veut exalter. C'est l'homme qui doit tout dire. Plus de place pour un absolu extérieur à l'homme. C'est dans l'homme qu'on doit retrouver l'absolu. Feuerbach, à ce point de vue-là, est très significatif. Il montre que l'infini, il est dans l'intelligence et la volonté. Ce que Descartes avait déjà dit. Mais Descartes montrait que cet infini de l'homme devait s'appuyer sur Dieu. Feuerbach dit pas du tout. L'infini, il est dans l'homme. Et c'est l'homme qui le projette en Dieu. Mais qu'en réalité, il est dans l'homme. Mais c'est très curieux, à ce point de vue-là, de faire le parallélisme entre Feuerbach et Descartes. Ce qu'au fond Sartre a très bien compris. Alors il va très loin, Sartre, puisqu'il dit « Si Descartes était apparu dans notre siècle, il serait athée. » Parce qu'il a tout posé pour l'athéisme. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vrai, c'est l'interprétation de Sartre sur Descartes. Mais s'il y a quelque chose de juste, c'est que le primat de l'idée empêche de poser Dieu. Parce que Dieu n'est pas une idée. Et Sartre dit textuellement, il dit, si j'ai un concept de Dieu, ce n'est plus le concept de Dieu, puisque Dieu ne peut pas être contenu dans une idée. Je ne peux pas avoir l'idée de Dieu. Et donc si l'idée demeure la mesure de toute ma connaissance, Dieu est rejeté. Il n'y a plus de possibilité d'atteindre Dieu. Alors, si je regarde au point de vue métaphysique, cette petite topic rapide, très rapide, mais qui est importante à ponctuer, qu'est-ce que je vois? Je vois que Aristote parle, ici c'est pour saisir le nom. Aristote parle d'une philosophie première. Les œuvres d'Aristote ayant théologie dans toute sa force. On a ensuite critiqué, parce que l'ontologie ne critique pas la métaphysique, mais donne un nouvel ordre à la métaphysique à partir des idées. L'idée d'être. Après, on a dit la métaphysique. Heidegger dira métaphysique. La métaphysique, elle a duré un certain temps. Elle est terminée. Heidegger considère que la métaphysique telle qu'on l'a vécue, elle est terminée. Il faut une nouvelle manière de penser l'être. On va appeler l'ontologie fondamentale.
Sous l'influence
le sens pas du tout comme quelqu'un qui regarde. Il y a autre chose. Il a un autre contact avec l'univers. Comme un aveugle développe énormément l'ouïe, normalement. Le passage, vous voyez, ce qu'on peut faire, vous allez saisir, quand vous pouvez demeurer près d'une forêt. L'expérience, et que vous êtes un petit peu attentif. Le soir arrive, l'été, le soir arrive tard. Il y a un moment de très grand silence entre le passage des oiseaux du jour et des oiseaux nocturnes. On peut tous constater ça. On le constate pas parce qu'on fait pas attention. Mais si on fait attention, c'est très intéressant à remarquer ça. Il y a un moment de silence. Mais comme si il y avait une trêve. On laisse la place aux autres. Donc il faut laisser la place aux autres. Ils n'apparaissent qu'après. Ils n'apparaissent pas tout de suite en même temps. C'est très très curieux. Bon. Ça se fait, c'est Louise. Les oiseaux du jour. Les oiseaux de la nuit. C'est tout à fait autre chose. Puis je peux voir aussi. Cinéma qui peut faire quelqu'un qui avance.